Chapitre 3. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Si le chapitre 2 de Jean prouve la ruine de l'homme, le chapitre 3 présente la mise de côté totale de l'homme ruiné afin d'introduire une nouvelle race par l'opération souveraine de Dieu dans la nouvelle naissance et l'œuvre de Christ à la croix. Il faut que l'homme soit né de nouveau, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Versets 1 à 16. Toutefois, la souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Aussi, la responsabilité de l'homme de venir à la lumière et de croire au Fils est-elle pleinement développée? Versets 17 à 21. Le chapitre se termine avec le dernier témoignage de Jean le Baptiseur à la gloire de Christ. Versets 22 à 36. Il faut que Jean diminue et que Christ croisse. Ainsi, la voie est frayée pour la manifestation complète de la splendeur de Dieu en Christ, le Fils, dans tous les chapitres qui suivent, jusqu'à la fin de l'Évangile. Versets 1 à 17. La souveraineté de Dieu. Citation de l'Écriture. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit « en vérité je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit « comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus répondit et lui dit « tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Fin de citation. Les vérités de toute importance se rapportant à l'œuvre souveraine de Dieu en l'homme sont développées dans l'histoire de Nicodème, un échantillon de l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Nicodème est profondément religieux, éminemment respectable et résolument intellectuel. Il est d'entre les pharisiens, un chef des Juifs et docteur en Israël. Pourtant, nous apprenons que toutes ces qualités humaines ne permettent pas à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Qu'il s'agisse de la chair hautement cultivée et raffinée, comme dans le cas de Nicodème, ou de la chair complètement dégradée, comme pour la femme du chapitre 4, dans les deux cas, la connaissance de Dieu révélée en grâce fait défaut. Sans l'opération de la grâce souveraine de Dieu en nous, nul ne viendrait à Christ. Comme ceux dont il est parlé à la fin du chapitre précédent, Nicodème était parvenu à une conclusion juste concernant Christ, fondée sur l'évidence extérieure des miracles. Il dit au Seigneur, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'était dans une mesure une conclusion correcte que l'esprit humain est capable de tirer, mais si ce n'est rien de plus que le résultat de la raison humaine, l'âme est laissée loin de Dieu et sans le moindre sentiment de son besoin en Christ. Toutefois, à la différence de ceux qui croyaient simplement ce qu'ils voyaient, Nicodème éprouvait un sentiment de son besoin. Ce contraste est souligné par le premier mot du chapitre 3. « Mais il y avait un homme, dont le nom était Nicodème, celui-ci vint à lui. » D'autres ont raisonné et en sont restés là. Nicodème aussi a raisonné, mais il est venu, prouvant que derrière son raisonnement et à son insu, un travail de Dieu s'opérait dans son âme, produisant un sentiment de besoin et l'attirant à Jésus. Au moment où l'âme éprouve un sentiment de besoin, elle réalise que la religion de la chair, la position officielle de chef et la réputation de docteur ne suffisent pas. Quand ce sentiment de besoin est produit par l'esprit, il va immédiatement de pair avec la conscience que seul Christ peut y répondre. Aussi, l'âme est-elle attirée à Christ. D'autre part, Nicodème vient de nuit. L'éveil d'un sentiment de besoin à l'égard de Christ s'accompagne de la conscience que le monde, et en particulier le monde religieux, sera opposé. Ainsi, la première rencontre avec Christ est souvent secrète. Nicodème appelle le Seigneur « Rabbi » ou « Maître ». Il lui dit ce qu'il sait et donne au Seigneur la place de maître, prenant en lui celle d'élève. Ne se connaissant pas véritablement lui-même, il s'imagine être tout à fait capable d'apprendre, pour autant qu'il trouve quelqu'un qui l'instruise. Par sa réponse, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur écarte immédiatement l'attitude respectueuse de Nicodème exprimée dans le titre qu'il lui donne, Rabbi, son savoir acquis par la raison humaine et son aptitude naturelle à apprendre. Tout cela appartient à la vieille nature et est sans valeur lorsqu'il s'agit d'être instruit dans les choses de Dieu. La raison humaine et les capacités naturelles nous permettent de voir beaucoup de choses dans la nature, mais à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur lit donc ici la nouvelle naissance et le royaume. Plus tard, il parlera des choses célestes, de sa propre œuvre et de la vie éternelle. En ce temps, le royaume n'était pas présenté dans sa forme matérielle et extérieure, une forme que la nature pourrait reconnaître. Il était montré en Christ dans ses caractéristiques morales. Le roi était présent, mais rejeté. Et les traits moraux du royaume se voyaient en lui. Justice, et paix, et joie. Telles sont les bénédictions qui caractériseront en effet le royaume au jour de son règne, et qui sont connues maintenant dans la puissance de l'Esprit par ceux qui croient en Christ au jour de sa réjection. Il était impossible à la nature de voir le royaume de cette manière morale, dans le roi. Pour cela, il doit y avoir une œuvre de Dieu dans l'âme, appelée ici « nouvelle naissance ». Raisonnant en homme naturel, Nicodème manifeste que les pensées de l'esprit humain ne vont pas au-delà de l'expérience humaine. Laissé à lui-même, l'homme ne peut pas comprendre les choses spirituelles et célestes. Dans sa réponse, le Seigneur nous transporte au-delà des limites de l'expérience humaine et nous dit ce que Dieu fait. Nous apprenons que cette œuvre de Dieu est nécessaire non seulement afin de voir le royaume, mais aussi afin d'y entrer. Pour avoir part au royaume, sous quelque forme que ce soit, moralement ou dans sa gloire extérieure, il faut avoir une nature adaptée au royaume. Le Seigneur parle d'une naissance d'eau et de l'esprit, puis il ajoute « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qui, c'est-à-dire la nature, est né de l'esprit est esprit. Il participe de la nature de celui par lequel il est né. Il s'agit donc d'une nature entièrement nouvelle. L'eau est une image de la parole appliquée par l'esprit, purifiant pratiquement nos pensées et nos cœurs, de la vieille nature et ses désirs. Ce qui est né de la chair est chair est une affirmation d'une vaste portée. Elle montre que rien de ce qui est selon la chair ne convient pour le royaume de Dieu. Israël, selon la chair, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais quiconque possède cette nouvelle nature, d'entre les Juifs ou d'entre les nations, est propre pour le royaume de Dieu. Le Seigneur nous sort de la nation juive et ouvre le royaume de Dieu à tous ceux qui sont nés de nouveau. La nécessité de la nouvelle naissance est donc établie. Mais nous apprenons, en outre, que cette nouvelle naissance est entièrement de Dieu. Elle est l'action souveraine de l'Esprit de Dieu comparée au vent qui ne souffle pas selon l'instruction de l'homme. Nous ne pouvons pas dire d'où le vent doit venir, ni où il doit souffler. De même, l'action souveraine de l'Esprit ne peut pas être limitée aux Juifs ou à un individu particulier. Nous ne pouvons pas contrôler l'action de l'Esprit. Il ne nous appartient pas de dire où et en qui il peut agir. Nicodème s'étonne encore de ces vérités, tellement contraires à sa raison naturelle. Il demande « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Le Seigneur répond que, comme docteur, il aurait dû connaître ces choses. Le prophète Ézéchiel n'avait-il pas parlé de l'eau et de l'esprit opérant dans les hommes, afin qu'ils puissent être purifiés de leurs impuretés et avoir un cœur nouveau ? Ézéchiel 36, versets 25 et 27. En contraste avec Nicodème et avec les conducteurs d'Israël qui prenaient la place de docteurs et ignoraient pourtant leurs propres écritures, le Seigneur parle de vérités dont il avait une connaissance parfaite et rendait témoignage des choses qu'il avait vues. Il connaît non pas seulement ce qui est dans l'homme, chapitre 2, verset 25, mais aussi tout ce qui est dans le cœur de Dieu. Il sait l'étendue de nos besoins et il connaît la grandeur de la grâce de Dieu pour y répondre. Toutefois, le Seigneur doit ajouter « Vous ne recevez pas notre témoignage ». Nous pouvons assurément douter du témoignage des hommes, sachant très bien qu'il ne va pas au-delà de leur connaissance limitée. Mais quand celui qui a une connaissance parfaite rend témoignage, et que ce témoignage est rejeté, l'état totalement désespéré de l'homme, laissé à lui-même, est prouvé. Nous avons ainsi une mise à nu et un rejet complet de l'homme naturel dans ce qu'il a de meilleur. Premièrement, il peut parvenir à certaines conclusions concernant Dieu et les Écritures, justes en elles-mêmes, mais qui le laisseront dans l'éloignement de Dieu. Secondement, quand celui qui a une connaissance parfaite rend témoignage à la vérité, l'homme rejette le témoignage. Tout prouve la nécessité de la grande vérité. L'homme doit être né de nouveau. Ou, comme nous le trouvons en note, entièrement à nouveau. De nouveau n'implique pas une modification ou un changement de la vieille nature, mais exprime la communication d'une nature entièrement nouvelle dès son origine. L'expression est traduite par « depuis le commencement » en Luc 1, verset 3 et en Acte 26, verset 5. Naître de nouveau signifie non pas que le Saint-Esprit agit sur l'homme naturel, comme pour transformer un mauvais état en un bon état, mais que quelque chose d'entièrement nouveau est produit dans l'homme. Dans la première partie du chapitre, le Seigneur a parlé de choses terrestres, le royaume de Dieu et la nécessité de la nouvelle naissance pour voir le royaume y entrer. Maintenant, le Seigneur va passer aux choses célestes et à la vie éternelle, ainsi qu'à la nécessité de la croix. Si l'homme ne croyait pas qu'en Christ parlait des choses terrestres, il serait d'autant moins capable de croire les choses célestes. Si donc la nouvelle naissance est nécessaire pour voir les choses terrestres, elle le sera encore plus pour saisir les choses célestes. Jean le baptiseur avait parlé des choses terrestres, et les prophètes aussi. Mais nul homme n'avait été au ciel pour rendre compte des choses qui s'y trouvent. Toutefois, si personne n'était capable de monter pour faire rapport des choses célestes, quelqu'un est descendu en grâce du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cette dernière expression est très profonde. Elle montre que, tout en étant véritablement homme, le Seigneur appartient au ciel et est céleste quant à son caractère. Nous relions la pensée de l'homme à la terre, mais, dans le Fils de l'homme, nous voyons un homme rattaché au ciel. Il est l'objet des délices du ciel, le centre de la louange céleste. Il peut visiter la terre, mais sa maison est le ciel. Bien qu'il marche sur la terre, il vit dans le ciel tous les jours de son séjournement ici-bas. Les mots « chose céleste » ne se retrouvent que dans deux autres passages. Hébreux 8, verset 5 et Hébreux 9, verset 23. Ils se réfèrent au christianisme. Toutefois, la pensée de Dieu n'était pas que Christ soit le seul homme dans cette scène merveilleuse, mais pour que puisse être accompli le propos de Dieu, que d'autres y soient selon son ordre, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Cela nous conduit aussitôt à la croix, comme répondant non pas simplement à nos péchés, si importants que ce soit, mais à notre état. Le Fils de l'homme étant élevé, la bonne nouvelle peut maintenant être proclamée, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme hommes déchus, nous étions dans un état de péché, et notre sort était de périr. L'effet de l'œuvre de Christ, de son élévation, pour tous ceux qui croient, est la vie éternelle. Le croyant entre dans des relations nouvelles et célestes du Fils de l'homme. Dans ce passage, l'Évangile est présenté du côté de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'amour et du propos du cœur de Dieu, plutôt que l'annonce de ce qui répond à nos besoins. Dans le récit de Luc 24, les disciples reçoivent pour mandat de prêcher la repentance et la rémission des péchés dans le nom de Christ à toutes les nations. C'est la proclamation de ce qui répond aux premiers besoins d'une âme qui se repent, à savoir la rémission des péchés. Tel est le point fort de toutes les prédications rapportées dans le livre des Actes. Voir Actes 2, verset 38, 3, verset 19, 5, verset 31, 10, verset 42 et 43, 13, verset 38, 17, verset 30, 26, verset 18. La nouvelle naissance n'était apparemment pas annoncée, ni la vie éternelle. Pourtant, là où le message était reçu, la nouvelle naissance était certainement impliquée et la vie éternelle était le résultat. Voir Actes 13, versets 47 et 48. Dans cette portion du chapitre, la souveraineté de Dieu domine et l'Évangile est présenté dans toute sa grandeur du côté de Dieu. Le premier souci de l'homme est le fait qu'il a péché, et Dieu répond en grâce à ce besoin en proclamant le pardon des péchés par la mort et la résurrection de Christ. Mais derrière les péchés commis se trouve l'homme qui a commis les péchés. Il n'y a absolument aucun bien en lui. Aussi, la sainteté de Dieu demande-t-elle qu'il soit mis entièrement fin à cet homme dans le jugement. Mais le jugement de mort qui repose sur cet homme a été exécuté à la croix. L'aspect de la croix présenté ici est donc celui que préfigure le serpent d'airain. Les Israélites qui regardaient le serpent d'airain voyaient la ressemblance de ce qui, en eux, causait tout le trouble. Ainsi, nous avons le privilège de regarder en arrière à la croix et de voir Christ envoyé en ressemblance de chair de péché et comme sacrifice pour le péché. Romains 8, verset 3. Il a été fait là ce que nous sommes, afin de porter le jugement qui reposait sur nous. Ce qui est né de la chair, et est sous le jugement. Et le jugement de tout ce que nous sommes, selon la chair, a été exécuté pour le croyant à la croix. De même que cet aspect de la croix va plus loin que le fait de porter les péchés, la bénédiction pour le croyant va beaucoup plus loin que le pardon des péchés. Il s'agit non seulement de la fin de la vie placée sous le jugement, mais de l'introduction d'une vie nouvelle, la vie éternelle, une vie qui consiste en la jouissance de relations avec les personnes divines. La manière selon laquelle nous entrons dans la jouissance pratique de cette vie est présentée en Jean 4. C'est par l'Esprit en nous, comme fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. De plus, cette grande bénédiction ne peut être limitée aux Juifs. Elle est également pour les nations, d'où les mots « quiconque croit en lui ». En outre, l'amour de Dieu est présent derrière toute sa manière d'agir envers l'homme sous le jugement. c'est d'une immense importance pour nos âmes. Sans cette grande vérité, le verset 14 pourrait nous laisser sous l'impression que Dieu est uniquement un juge qui peut-être a été pleinement satisfait, mais néanmoins un juge. Ici, nous apprenons que le Dieu qui a agi en jugement est un Dieu d'amour. La même croix qui révèle Dieu comme un juste juge démontre la grandeur de son amour. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si, d'une part, le jugement a été exécuté et la vie éternelle donnée à ceux qui croient, en parfaite justice, selon les versets 14 et 15, d'autre part, la bénédiction a sa source dans l'amour divin, selon le verset 16. De plus, s'il est question de satisfaire à la justice, Christ est présenté comme le Fils de l'homme. Quand il s'agit de faire connaître l'amour de Dieu, Christ est placé devant nous comme le Fils unique de Dieu. Celui qui prend la place de l'homme et porte son jugement doit nécessairement être un homme, le Fils de l'homme. Celui qui révèle le cœur de Dieu doit être une personne divine, le Fils unique. Dans ces versets, tout est ramené à sa source, que ce soit en Dieu ou en l'homme, et tout tend au but final, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de l'homme. En Dieu, la source de toutes ses actions se trouve dans son amour. En l'homme, la source de toute sa misère réside dans ce qu'il est, et non pas simplement dans ce qu'il a fait. Selon le propos de Dieu, le but est la vie éternelle dans une sphère céleste pour ceux qui croient. Quant à ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux pour toujours. Versets 18 à 21. La responsabilité de l'homme. Citation de l'Écriture. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. Fin de citation. Alors que la première partie du chapitre présente la souveraineté de Dieu, les versets qui suivent placent devant nous la responsabilité de l'homme. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner, mais afin que, par lui, le monde soit sauvé. Si le verset 17 déclare que nous ne pouvons être sauvés que par lui, le verset suivant établit que ceux qui le rejettent sont déjà jugés. Les hommes n'ont pas à attendre un jour futur pour entendre leur jugement en raison de leurs mauvaises actions. S'ils rejettent Christ, ils sont déjà jugés, quoi qu'ils aient pu faire par ailleurs. Le passage montre clairement qu'il ne peut pas y avoir de jugement pour celui qui croit en Christ. Sinon, ce serait nier l'efficacité de l'œuvre de Christ lorsqu'il a été élevé sur la croix. Il établit tout aussi clairement que celui qui rejette Christ est déjà jugé. La bénédiction ou le jugement des hommes dépend de leur attitude à l'égard de Christ et non pas simplement du mal qu'ils ont fait. La responsabilité de l'homme est fondée sur le fait que la lumière est venue dans le monde et a brillé dans toute sa splendeur dans la personne du Fils, révélant le cœur de Dieu. L'homme est responsable de se servir de la lumière. Qu'il se soit rendu incapable de le faire n'affecte pas sa responsabilité. Les hommes aiment mieux les ténèbres que la lumière. Mais pourquoi en est-il ainsi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ainsi, par ses mauvaises œuvres, l'homme s'est rendu incapable de profiter de la lumière. Un ivrogne peut s'enivrer au point d'être inconscient et incapable d'accomplir ses devoirs. Il n'en demeure pas moins responsable. L'incapacité ne libère pas de la responsabilité. Les mauvaises œuvres que font les hommes les conduisent à haïr la lumière qui manifeste leurs actions et trouble leur conscience. Une conscience troublée ne supporte pas la lumière. Celui qui pratique la vérité ne craindra pas la lumière. Versets 22 à 34. Le dernier témoignage de Jean le Baptiseur à la gloire de Christ. Citation de l'Écriture. Après ces choses, Jésus vint dans le pays de Judée, et ses disciples avec lui, et il séjourna là avec eux et baptisait. Et Jean aussi baptisait en Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait et on était baptisé. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il y eut donc une discussion entre quelques-uns des disciples de Jean et un juif, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit et dit, « Un homme ne peut rien recevoir, à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, « Ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui assiste et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et de ce qu'il a vu et entendu, de cela il rend témoignage. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. Fin de citation. Dans ces derniers versets, Jean met en contraste son propre ministère et celui de Christ, et par là rend témoignage à la gloire de Christ et au caractère céleste de son service. Devant lui, il faut que Jean diminue afin que Christ puisse croître. Une question avait surgi touchant la purification. Les Juifs profitent de faire remarquer à Jean que tous les hommes allaient à Christ. Jean admet volontiers que les foules qui, autrefois, venaient à lui se rassemblent maintenant autour de Christ. Il reconnaît qu'il s'agit d'une œuvre venant du ciel pour attirer à Christ et est satisfait qu'il en soit ainsi. Jean établit alors clairement la position qui était la sienne par rapport à Christ. Il est le précurseur et, selon l'illustration dont il se sert, il est l'ami de l'époux. Christ est le véritable époux qui recevra son épouse, et Jean se réjouit parce qu'il a vu l'époux et entendu sa voix. Jean ne fait pas partie de l'épouse, il ne voit pas non plus l'épouse. Mais, comme ami, il entend la voix de l'époux, et sa joie est accomplie, et sa mission remplie. Aussi ajoute-t-il, « Il faut que lui croisse, et que moi je diminue. » L'amour se réjouit de voir Christ exalté, même si celui qui se réjouit en Christ disparaît des pensées et de la vision des hommes. Si seulement tous les croyants pouvaient être animés de cet heureux esprit de Jean, qui recule devant la publicité et la prééminence parmi les hommes, qui ne fait aucun cas de lui, afin que Christ soit tout en tous. Enfin, Jean rend témoignage à la gloire de Christ comme venant d'en haut, du ciel, et prenant donc nécessairement une place au-dessus de tous ceux qui sont de la terre. L'origine de Jean était de la terre. Il était terrestre de caractère et parlait uniquement des choses terrestres, le Messie et son royaume terrestre. Celui qui vient du ciel parle des choses célestes, de ce qu'il a vu et entendu. Un prophète comme Jean n'est pas seulement limité aux choses terrestres, mais même ainsi, il s'agit de choses à venir qui n'existent pas encore sur la terre. Au contraire, Christ parle de choses réelles qui existent dans le ciel. Jean doit ajouter la constatation solennelle que personne ne reçoit son témoignage. Ce témoignage des choses célestes, de choses qui existent dans la présence de Dieu, ne présente aucun intérêt pour des hommes qui ne comprennent ni ne désirent les choses du ciel. Laissé à lui-même, nul homme ne reçoit le témoignage de Christ, qui ne peut être reçu que par la foi. Celui qui reçoit le témoignage le fait en vertu de l'autorité de Dieu. Il scelle que Dieu est vrai. Le croyant a une bonne raison de recevoir ce témoignage sur l'autorité de Dieu, car une personne divinement envoyée apporte un message divin dans la puissance d'une personne divine. Christ a été envoyé par Dieu pour parler les paroles de Dieu dans la puissance de l'Esprit de Dieu. En outre, l'Esprit ne lui a pas été donné par mesure. Il ne s'agit plus, comme au jour des prophètes, d'un message renfermant une vérité particulière. Mais, le Fils étant celui qui parle, c'est la présentation de la pleine vérité. Versets 35 et 36. Citation de l'Écriture. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation. On pense généralement que les deux derniers versets expriment le témoignage de Jean l'Évangéliste à Christ, vu qu'il parle de la vie éternelle comme une possession présente et connue, plutôt qu'il ne présente un témoignage prophétique à ce que Dieu donne, comme dans le ministère de Jean le Baptiseur. Il semblerait ainsi que l'Évangéliste ajoute son témoignage à la gloire du Fils. Il dit en quelque sorte « Ce que dit le Baptiseur, que Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure à Christ, doit être vrai, car le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. » La plénitude de vérité présentée par une personne aussi glorieuse conduit, si elle est reçue, dans la plénitude de bénédiction, la vie éternelle. Mais si elle est rejetée, elle laissera finalement celui qui n'en veut pas sous la colère de Dieu.